Chapitre 20. Programmé, murmure Sterling sans oser la regarder, de peur qu'elle l'accuse de dire n'importe quoi, ou bien qu'elle veuille en savoir davantage. Il est certain de mourir s'il trahit Berthold Chenek, David James Michael et les autres. Ce sera la ruine et la mort. Quand bien même il les dénoncerait à la justice, jamais les juges n'accepteraient de négocier avec lui, pas après ce qu'ils ont fait. Depuis le début, il savait que ce serait tout ou rien. Il connaissait les risques en s'engageant. Comme l'autre salope reste silencieuse, Sterling finit par ouvrir les yeux et s'aperçoit qu'elle le regarde. Comment un visage peut-il afficher autant de mépris et rester aussi beau? Comment des yeux d'un bleu aussi étincelant peuvent-ils être aussi impitoyables? Elle referme les ciseaux. Je n'ai pas l'intention de vous menacer plus longtemps dans le but d'obtenir d'autres révélations. Seule la torture serait efficace à ce stade, mais je n'ai pas le courage de vous toucher. Voici ce que je vous propose. Vous m'indiquez l'adresse d'Aspasie avec votre mot de passe et j'y vais avec votre Bentley. À mon retour, nous ouvrirons votre coffre et je prendrai ce que je veux. Et si jamais vous ne revenez pas, quelqu'un finira bien par s'inquiéter si vous n'honorez pas vos rendez-vous lundi. Je doute que vous mouriez de soif jusque-là. Elle se relève et prend un gant de toilette sur le porte-serviette. Elle en découpe un grand morceau à l'aide des ciseaux, se débarrasse du reste et forme une boule avec le tissu. Jane n'est plus une simple femme aux yeux de Sterling. Elle est devenue l'incarnation du mystère. Cette créature mystique de chair et de sang tient sa vie entre ses mains. Il l'observe avec effroi, dans l'attente d'un coup mortel. « Je vais vous enfoncer ce morceau de gant de toilette dans la bouche avant de vous bâillonner avec du ruban adhésif. Si jamais vous vous avisez de me mordre, je vous casse les dents. Compris ?»« Oui. » »« Dites-moi tout d'abord où trouver les clés de la Bentley et de la maison. Également l'adresse d'Aspasie et le moyen de m'y introduire. » Il répond sans hésitation. « À présent, le code de l'alarme.
9, 6, 9, 4, étoile.
Si jamais vous m'avez donné le code d'urgence qui coupe l'alarme tout en alertant la société de surveillance, voici ce qui va se passer. Après avoir coupé l'alarme périmétrique que vous avez branchée en entrant, je resterai ici 10 minutes, au cas où les types de Vigilante Eagle ou les flics débarqueraient. Si jamais c'est le cas, je vous colle une balle dans la tête. À présent, avez-vous un autre code à me donner ?
9, 6, 9, 5, étoiles,
déclare Sterling d'une voix qu'il reconnaît à peine. Le dernier chiffre est différent. Le 5 au lieu du 4, c'est bien ça ?
Oui.
Elle s'agenouille à côté de lui, lui enfourne le gant de toilette de force dans la bouche et sort de son grand sac un rouleau de ruban adhésif. Ce n'est pas un sac, c'est un cabas de sorcière. Elle découpe une longueur de ruban adhésif avec les ciseaux et lui couvre la bouche avant de maintenir en place le tout en enroulant le scotch par deux fois autour de sa tête. Elle regagne la chambre où se trouve le tableau de bord. L'appareil émet un bip lorsqu'elle compose le code et une voix sort du haut-parleur. Alarme désactivée. Elle retourne dans la salle de bain et sort le pistolet dissimulé sous son blouson. Elle se tient au-dessus de lui, le bras tendu, le canon de l'arme à 30 cm de son visage. Il lui a donné le bon code. Il sait donc que personne ne viendra. Mais les 10 minutes qui suivent sont pourtant les plus longues de son existence.